Lire la Bible comme un simple, je sais pas, un simple livre d'histoire linéaire, c'est prendre le risque de passer complètement à côté de l'essentiel, en fait.
Ouais, tout à fait, on s'y perd très vite.
Exactement. Si on s'en tient juste à une lecture de surface, on se retrouve super rapidement submergé par la quantité de personnages, les voix antiques et tous ces récits qui semblent n'avoir aucun lien entre eux.
C'est le ressenti classique, oui.
Mais d'après les recherches du docteur Matthew S. Harman, ce texte millénaire, il est en réalité construit d'une manière beaucoup, beaucoup plus sophistiquée. Pour utiliser une métaphore moderne, je suis très fan de ça, c'est structuré un peu comme un immense univers cinématographique.
Ah, l'univers Marvel, tout ça, c'est une super image.
Voilà, c'est ça. Un détail en apparence minuscule, dans le tout premier chapitre, il n'est pas là par hasard. C'est une installation délibérée, presque encodée, qui prépare le terrain pour une conclusion épique qui n'arrivera que des centaines de pages et même des siècles plus tard.
Et c'est là toute la beauté de la chose.
C'est clair. Donc, dans notre exploration détaillée aujourd'hui, on va se pencher sur la manière dont ces textes anciens communiquent entre eux. C'est ce que les théologiens appellent la fameuse typologie. Le défi, c'est de comprendre comment déceler ces fils conducteurs cachés, sans pour autant basculer dans la théorie du complot où tout deviendrait un message secret, quoi.
C'est le grand risque, effectivement. Il faut garder la tête froide.
D'accord. Alors, décortiquons un peu tout ça. Comment des auteurs, des gens séparés par des siècles, peuvent-ils collaborer à une structure comme ça?
Pour bien saisir la mécanique de cette structure, il faut d'abord casser une idée reçue très tenace. Quand un lecteur moderne tombe sur des similitudes troublantes entre deux récits bibliques séparés par, disons, des centaines d'années, son premier réflexe, c'est souvent de se dire « Tiens, c'est une coïncidence » ou « C'est un thème littéraire récurrent, voire même du plagiat ».
Ouais, on se dit que l'auteur a juste manqué d'inspiration et a copié ce qui marchait avant.
Exactement. Mais ce que le docteur Harmon avance, et honnêtement ça change toute la perspective, c'est que l'auteur divin, qui inspire les auteurs humains, a intentionnellement façonné ces événements. La typologie, dans sa définition stricte, elle opère quand un auteur décrit une personne ou un événement historique de manière hyper sélective.
Sélective, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire dans le but précis de faire écho à un modèle plus ancien, tout en préparant le terrain pour une réalité future, c'est pas juste du remplissage.
Mais attendez, sur le plan purement critique, comment on prouve cette intentionnalité? Parce que, en fait, c'est hyper facile d'affirmer après coup que les auteurs ont choisi leurs mots pour créer une attente. Ça pourrait tout aussi bien être le résultat d'un auteur plus récent qui copie paresseusement la structure d'un récit fondateur. Qu'est-ce qui différencie vraiment la typologie d'un simple pastiche?
C'est une objection essentielle, je suis d'accord. Et c'est exactement pour ça que Harmon pose une condition non négociable. C'est l'ancrage historique absolu.
Ok, l'ancrage historique.
Voilà, la typologie biblique, elle ne fonctionne que parce qu'elle s'appuie sur des événements qui se sont réellement produits, des figures de chair et de sang. Pour bien marquer la différence, Harmon oppose ça à la méthode de Philon d'Alexandrie.
Le philosophe juif du 1er siècle, c'est ça?
C'est ça. Philon, lui, il était à fond dans l'allégorie pure. Quand il lisait la Genèse, les personnages historiques perdaient toute leur substance matérielle pour devenir de simples concepts. Pour lui, les fleuves d'Éden ou les patriarches, c'était juste des représentations psychologiques de l'âme, genre la vertu contre le vice.
Ah oui, donc l'histoire réelle, ils s'en fichaient un peu au final.
Totalement. Alors que la typologie, au contraire, elle refuse de détruire l'histoire originelle. Elle prend l'événement brut, matériel, et s'en sert comme socle pour une révélation progressive. C'est vraiment une mécanique d'escalade.
Une mécanique d'escalade. C'est-à-dire que la répétition de l'événement n'est jamais exactement du même niveau. Le nouveau modèle, le remake en quelque sorte, il doit obligatoirement être supérieur à l'original.
C'est le cœur même de la dynamique typologique. Le modèle initial, ce qu'on appelle le type, c'est juste une esquisse, une version préparatoire. Le meilleur exemple pour piger ça, c'est de regarder comment les prophètes traitent l'Exode.
L'Exode original, hors d'Égypte ?
Ouais. Dans le récit de base, la nation d'Israël fuit l'esclavage, traverse la mer Rouge et marche vers un territoire physique. C'est un événement massif. Mais des siècles plus tard, pendant l'exil à Babylone, des prophètes comme Ésaïe ne se contentent pas d'être nostalgiques du passé. Ésaïe va carrément s'emparer du vocabulaire de l'Exode, le désert, la mer, pour annoncer un nouvel Exode.
Et j'imagine que ce nouvel Exode, il est beaucoup plus grand.
Waouh, l'ampleur est cosmique. Il s'agit plus juste de fuir un oppresseur géopolitique. On parle de déserts qui fleurissent, d'une libération spirituelle totale. L'accomplissement final, il écrase littéralement le modèle original par son envergure.
Waouh! Et voici où ça devient vraiment intéressant au niveau du vocabulaire. Parce que le mot technique qu'on utilise pour désigner cet accomplissement final écrasant, ben c'est antitype. Je dois admettre que la première fois que j'ai croisé ce terme, ça m'a tout de suite fait penser au nom d'un méchant dans une bande dessinée. L'antitype, genre le némésiste destructeur.
C'est vrai que ça sonne à soi comme ça.
Mais dans le cadre de cette architecture narrative, si je suis bien la logique de Harmon, le préfixe « anti » indique pas du tout une opposition destructrice.
Non, pas du tout. Harmon reconnaît que la traduction dans nos langues modernes est un peu trompeuse. Aujourd'hui, « anti », c'est l'hostilité. Mais dans le grec biblique, « antitupos » fait simplement référence à la réalité finale vers laquelle l'empreinte de départ pointait. C'est le passage du nombre flou à la substance solide.
Du nombre à la réalité, ouais.
D'ailleurs, pour visualiser ça, le théologien Gerardus Voss a proposé un modèle spatial super parlant. Imaginez un immense triangle.
Ok, je visualise le triangle.
Tout en haut, au sommet, vous avez la réalité céleste. Parfaite. Cette réalité descend une première fois sur Terre sous forme d'ombre temporaire, genre une institution ou un roi. Ça, c'est le type de l'Ancien Testament.
D'accord.
Ensuite, avec le temps qui avance, cette ombre terrestre évolue horizontalement dans l'histoire, pour aboutir à l'incarnation complète de la réalité, donc l'antitype, dans le Nouveau Testament. Donc la dynamique opère, de haut en bas, puis du passé vers l'avenir.
Si cette mécanique temporelle horizontale est si structurante, y a une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que les gens qui vivaient à l'époque de cette fameuse ombre, ils savaient qu'il n'était qu'une esquisse ? En gros, est-ce que les textes étaient rédigés pour pointer consciemment vers le futur, avec une énorme flèche clignotante, ou est-ce qu'on réalise la connexion qu'en regardant dans le rétroviseur des siècles plus tard ?
Alors là, vous touchez au cœur du grand débat. C'est la ligne de fracture intellectuelle majeure chez les spécialistes. Il y a deux écoles radicalement opposées. La première défend la typologie prospective, donc une lecture activement tournée vers l'avenir.
Qui défend ça, par exemple ?
Le professeur James Hamilton est l'un des chefs de file de cette approche. Pour lui, le texte hébreu original est rédigé de manière à réclamer son propre dépassement. L'auteur et les lecteurs de l'époque savaient que l'histoire n'était pas finie.
C'est un peu comme, comme une phrase laissée volontairement en suspens à la fin d'un chapitre de roman pour forcer le lecteur à acheter le tome suivant.
Exactement. Le cas d'école le plus frappant, c'est dans le Deutéronome, chapitre 18. Dieu fait une promesse directe à Moïse. Il dit qu'il va susciter pour le peuple un prophète comme lui, issu de leur rang. Structurellement, c'est hyper clair. Le texte oblige le lecteur de l'Antiquité à regarder vers l'horizon. L'Israélite qui lit ça, il se dit « Moïse, c'est notre grand leader », mais le texte annonce un successeur encore plus grand. La flèche directionnelle, elle est plantée en pleine lumière.
D'accord. Donc, avec une prophétie aussi explicite, l'approche prospective, elle fonctionne parfaitement. Mais j'imagine que l'autre école, celle de la typologie rétrospective, elle s'appuie sur des textes, disons, beaucoup moins coopératifs.
Absolument. Richard Hayes est le grand défenseur de cette seconde approche, tournée vers l'arrière. Pour lui, la plupart du temps, c'est strictement impossible de voir le motif avant que l'événement final ne se soit produit. Le sens est verrouillé sur la surface.
Vous avez un exemple concret ?
Bien sûr. L'exemple majeur qu'il donne se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 5. L'apôtre Paul déclare avec une assurance totale que le Christ est notre agneau pascal. Or, si on revient en arrière, dans le livre de l'Exode, l'institution de la Pâque, c'est très pragmatique. On sacrifie un animal pour peindre les portes et échapper à un fléau physique.
Ouais, il n'y a pas de dimension spirituelle évidente qui annoncerait un messie.
Rien du tout. Rien dans la grammaire hébraïque ne permettait de déduire « Attention, ce mouton rôti préfigure une personne divine qui va effacer les péchés du monde ». Pour Hayes, l'association est brillante, mais elle naît à rebours. Le point de vue final crée le sens originel.
D'accord, mais face à un clivage pareil, comment Harmon parvient-il à réconcilier ces deux visions ? Ou bien est-ce qu'il refuse juste de prendre parti ?
Il refuse effectivement de choisir, parce qu'il démontre que les textes utilisent les deux mécanismes en même temps. Mais là où Harmon est génial, c'est pour expliquer la dimension rétrospective de Hayes, celle qui nous dérange un peu. Il déploie une analogie scientifique absolument incroyable, celle du luminol.
Ah, j'adore cette image. Racontez-nous ça.
Imaginez une scène de crime qui vient d'être nettoyée. À l'œil nu, sous la lumière normale, tout est immaculé. Mais les enquêteurs arrivent, pulvérisent du luminol, plongent la pièce dans le noir et boum, ils allument une lumière noire. Immédiatement, des traces de sang invisibles se mettent à briller.
Et ce qui est fou, c'est que le luminol n'a pas rajouté le sang.
Voilà. Le sang était là depuis le début. C'est juste la révélation ultérieure de la lumière noire qui a permis de voir ce qui était déjà encodé. Pour Armon, le Nouveau Testament, c'est cette lumière noire sur les textes de l'Ancien Testament.
C'est visuellement hyper puissant. Mais, et je vais me faire l'avocat du diable une seconde, est-ce que cette théorie du luminol, ça frôle pas le biais de confirmation totale? Si on admet qu'on ne peut voir le motif qu'après coup, comment on garantit que c'est une vraie intention de l'auteur divin et pas juste les premiers chrétiens qui forçaient le texte pour lui faire dire ce qu'il voulait? C'est un peu comme lire l'avenir dans le marc de café. À force de chercher des formes, ben, on finit inévitablement par y voir un visage, quoi.
Ah mais cette critique est tout à fait fondée, et elle pousse Armon à utiliser une seconde analogie pour bétonner son truc, le roman policier. Quand vous lisez un Agatha Christie, vous arrivez au dernier chapitre, vous découvrez le meurtrier. À cet instant, votre cerveau repasse tout le film depuis le début.
Et on se rend compte que tous les indices étaient là.
Exactement. Soudain, on réalise que cette scène banale au chapitre 2, où le notaire regardait l'horloge, ben c'était pas du remplissage décoratif, c'était un indice décisif pour son alibi. Le fait qu'on n'ait pas eu l'intelligence de le décoder à la première lecture ne prouve pas que c'est une coïncidence. L'auteur humain l'avait encodé avec une intention féroce. Pareil pour Dieu avec l'agneau pascal. L'encre était invisible, mais elle était bien sur la page.
Ok, je comprends mieux. Mais si cette intention divine est tissée si profondément et qu'il faut la lumière noire pour la révéler, est-ce qu'il arrive parfois que le texte décide d'arrêter d'être subtil? Genre, est-ce qu'il y a des moments où l'auteur biblique allume carrément toutes les lumières et livre l'explication noir sur blanc?
Oui, et le chef-d'œuvre de cette approche explicite, c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 5. Là, Paul ne laisse aucune place au doute. Il désigne littéralement Adam, le premier homme, comme étant un type de celui qui devait venir, c'est-à-dire le Christ, l'antitype. Et là, on voit vraiment s'animer cette mécanique d'escalade. Paul utilise l'expression « à combien plus forte raison ».
Et ce qui est fascinant, c'est que choisir Adam comme type, ça semble super contre-intuitif. On s'attendrait à ce qu'un modal soit une figure de victoire, un héros. Mais Adam, bibliquement parlant, il est surtout célèbre pour un effondrement monumental. Comment Paul construit une continuité typologique à partir d'un échec aussi cuisant?
C'est ça la force du contraste typologique. L'escalade, elle se fait pas toujours par addition. Parfois, c'est une inversion totale. Paul explique que la désobéissance d'Adam, c'est comme un virus qui a infecté toute l'humanité, amenant la mort. Le schéma exige une symétrie pour répondre à ça.
L'antitype doit venir contrer le type.
Exactement, mais en débordant l'original. L'obéissance du Christ à la croix n'a pas juste effacé la dette d'Adam pour remettre les compteurs à zéro. La grâce surabonde, elle apporte la vie éternelle. La rédemption est infiniment plus puissante que la catastrophe de départ. Là, l'architecture est exposée aux yeux de tous, avec le mode d'emploi.
Ça, c'est le scénario idéal où l'auteur fait une décrypteur à notre place. Mais la méthode devient un art beaucoup plus subtil quand il faut appliquer la fameuse lumière noire soi-même. Et l'exemple qui illustre ça avec une précision redoutable, c'est dans Matthieu chapitre 4, avec la tentation de Jésus dans le désert.
Oh oui, un exemple magistral.
En surface, c'est juste l'histoire classique d'une épreuve d'endurance. Le héros s'isole, le diable l'attaque sur ses faiblesses, il résiste héroïquement. Mais si on chausse les lunettes typologiques de Armon, ce récit se transforme en une reconstitution historique d'une profondeur inouïe, non bâclée.
Mais c'est une reconstitution au millimètre près de la formation d'Israël. Les parallèles, une fois qu'on a la lumière noire, ils sont stupéfiants. Prenez l'identité d'abord. Dans l'Exode, Dieu désigne Israël comme son fils premier-né. Dans Matthieu, juste avant le désert, lors de son baptême, la voix céleste désigne Jésus comme le fils bien-aimé. Le titre est repris.
Ah oui, c'est vrai. Et ensuite la géographie, j'imagine.
Bien sûr. Israël est conduit dans le désert par la présence divine pour y être testé pendant 40 ans. Jésus, pareil, il est poussé par l'esprit dans le désert pour y être éprouvé 40 jours et 40 nuits. Dans les deux cas, le cœur de l'épreuve, c'est la privation extrême, la faim et la tentation de se détourner de Dieu pour l'idolâtrie.
Ça veut dire que Jésus n'est pas juste en train de faire un petit rite de passage personnel. Il est littéralement envoyé dans l'arène pour repasser l'examen national, l'épreuve précise qu'Israël a lamentablement raté des siècles plus tôt.
Mais c'est exactement le rouage central du texte. Les annales sont claires. Face à la famine, Israël s'est effondré. Ils ont murmuré, ils ont fait un veau d'or. Or Jésus, face à cette faim tenaillante de 40 jours, quand le diable lui suggère de changer des pierres en pain, il refuse. Et comment il riposte? En plongeant dans les archives, il cite le Deutéronome, spécifiquement les chapitres 6 et 8.
Et pourquoi ces passages-là en particulier? C'est pas juste parce qu'il y a le mot « pain » dedans, j'imagine.
Pas du tout. Historiquement, Deutéronome 6 et 8, c'est le discours de Moïse avant sa mort. C'est le moment où il rappelle à la nouvelle génération les échecs cuisants, les rébellions de leurs parents, dans ce même désert. En citant ça face à la tentation, Jésus démontre une maîtrise typologique fulgurante. L'auteur de l'Évangile nous montre que Jésus est le véritable Israël, le Fils obéissant qui triomphe là où la nation s'était effondrée.
Waouh ! Si on veut utiliser une métaphore contemporaine pour expliquer l'impact de ça, c'est infiniment plus complexe qu'un simple reboot hollywoodien où on referait le même film avec de meilleurs effets spéciaux. C'est comme si, je sais pas, dans un récit de science-fiction, on renvoyait un nouveau protagoniste dans le passé sur les lieux mêmes du drame originé.
Oh, j'aime beaucoup cette image.
Le héros est confronté au même piège mortel, au même environnement hostile, mais cette fois-ci, il réécrit la chronologie de l'intérieur, en prenant, à chaque carrefour, la décision parfaite qui sauve l'humanité. L'histoire originelle, c'était que le scénario catastrophique que l'intervention finale vient corriger.
C'est tout à fait ça. Et cette puissance de réécriture, elle trouve son apogée absolu lors de la crucifixion, notamment avec l'usage rétrospectif du psaume 22.
Ah oui, le fameux psaume de David.
Voilà. Le roi David compose un poème déchirant qui commence par « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il décrit des moqueurs, des bourreaux qui tirent ses vêtements au sort. À son époque, David utilise juste un langage poétique, viscéral, très hyperbolique, pour traduire son angoisse face à ses ennemis politiques. Rien dans sa vie personnelle ne justifie une exécution littérale avec tirage au sort de ses habits.
Et pourtant, un millénaire plus tard, sur la colline du Golgotha, l'hyperbole de David se transforme soudainement en un rapport clinique d'une précision glaçante. Les soldats romains tirent effectivement au sort les vêtements, les chefs religieux ricanent avec les mots exacts du psaume. L'effet de notre fameux luminol, il est tellement aveuglant sur cette scène qu'on pourrait presque croire que le roi David était assis au premier rang de l'exécution pour rédiger son psaume en direct.
C'est ce qui démontrait la prémisse fondamentale de Harmon. L'auteur divin utilise la douleur et les mots d'un homme du passé pour peindre l'avenir, même si cet homme ignorait la portée cosmique de son poème. Mais bon, face à ce genre de symétrie vertigineuse, il y a un énorme danger intellectuel qui guette.
Ah, c'est la transition parfaite, c'est là que je voulais vous pousser dans vos retranchements. Si on accepte que l'Ancien Testament regorge de ces connexions, est-ce qu'on ne court pas le risque monumental de traiter la Bible entière comme une sorte de parc d'attractions, un escape room géant? On pourrait se mettre à scruter chaque mention d'une couleur, chaque chiffre impair comme un code cryptographique secret. Ça sent la dérive complotiste à plein nez où l'imagination remplace la rigueur textuelle.
Votre métaphore de l'escape room, elle est excellente. C'est la dérive exacte que Harmon combat à travers sa règle d'or, l'humilité interprétative. La typologie légitime, elle opère toujours au niveau macro.
Macro, c'est-à-dire les grandes structures?
Voilà, les grandes structures narratives, les institutions historiques lourdes, jamais au niveau micro. Si un type vous dit « Regardez, dans l'Exode, il y a un tissu rouge. Le rouge, c'est le sang. Donc, ce petit bout de tissu préfigure le sang du Christ. » Il a quitté la typologie pour sombrer dans l'allégorisation débridée sans aucun fondement.
D'accord. Pour maintenir cette rigueur, il faut savoir classer ce qui est une vraie typologie. Quelles sont les fausses pistes les plus courantes que Harmon identifie?
Il met surtout en garde contre l'effet d'écho étendu. C'est un procédé littéraire génial, mais sans dimension prophétique. Par exemple, dans la Genèse, Abraham ment par lâcheté à un souverain, disant que sa femme est sa sœur. Quelques générations plus tard, son fils Isaac reproduit scrupuleusement le même mensonge pour la même raison, avec sa propre femme.
Le parallèle est cousu de fil blanc.
Totalement. Mais c'est pas de la typologie. Il n'y a pas d'escalade vers un accomplissement céleste, pas d'antitype. L'auteur utilise juste cet écho pour une leçon de morale. La nature déchue et les tares se transmettent de père en fils comme un héritage toxique.
Donc, le motif doit dépasser la simple leçon de morale pour propulser l'histoire vers son dénouement. Mais est-ce que cette propulsion, elle se fait toujours d'un seul bond? Du type originel vers l'antitype, sans rien au milieu?
À loin de là. La richesse du modèle de Harmon, c'est la reconnaissance d'itérations multiples. L'esquisse s'affine à travers des relais successifs. La trajectoire d'Adam en est le meilleur exemple. Dieu lui donne un mandat, se multiplier, remplir la terre, la gouverner. Adam échoue.
Mais le motif rebondit, c'est ça?
Exactement. Après le déluge, Noé reçoit un mandat quasi identique. Puis, des promesses similaires sont faites à Abraham, et ensuite formalisées avec le roi David.
L'écho traverse les âges, ok? Mais où est-ce qu'il trouve sa résolution finale dans le Nouveau Testament, Polymère?
À la toute fin de Matthieu, au chapitre 28. Après sa résurrection, Jésus est sur une montagne et déclare avoir recouvert toute autorité, réparant la perte d'Éden. Et il lance la grande mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Armon démontre que c'est l'antitype absolu du mandat d'Adam. L'ordre de remplir la terre n'est plus biologique, mais spirituel. L'itération a trouvé sa forme accomplie.
Waouh, c'est d'une symétrie époustouflante. Mais comment on applique ce principe d'humilité quand le texte ne valide pas expressément le modèle ? Paul nous autorise pour Adam, mais qu'en est-il des autres personnages qui semblent s'emboîter parfaitement, sans mention officielle ?
Armand recommande une approche audacieuse mais prudente. Il prend l'exemple de Josué. Aucun verset du Nouveau Testament ne dit « Josué était un type du Christ ». Pourtant, la structure macroscopique est indiscutable. Josué succède à Moïse, il conduit le peuple à travers le Jourdain, triomphe des ennemis et distribue l'héritage.
La symétrie avec le Christ qui fait entrer son peuple dans l'héritage céleste est écrasante.
Voilà. Armon soutient qu'il est légitime de l'enseigner. Toutefois, la règle de l'humilité stipule de ne jamais en faire un dogme inébranlable. Si le texte ne crie pas la connexion, on doit se contenter de la suggérer, avec prudence.
En somme, il faut garder la main ouverte, s'autoriser à être émerveillé par la complexité vertigineuse de ces motifs, tout en gardant l'honnêteté de reconnaître qu'on n'a pas percé tous les secrets. Cette plongée dans la méthodologie de Matthieu Armon, ça oblige fondamentalement à reconsidérer notre lecture. C'est pas un assemblage chaotique de mythes antiques, c'est une tapisserie d'une densité sidérante. Que le texte pointe vers l'avenir ou qu'on utilise le luminol rétrospectif pour illuminer l'encre invisible dans le rétroviseur, la typologie nous offre une structure incroyable.
C'est tout le génie de la méthode. Elle harmonise des milliers de fragments apparemment disparates, de la Genèse à la Grande Mission, pour révéler une cohérence implacable.
Et c'est cette cohérence qui nous pousse vers une réflexion assez vertigineuse pour clore notre analyse du jour. Si ces schémas complexes nécessitent des milliers d'années d'incubation pour révéler leur forme finale, s'ils impliquent des dizaines d'auteurs humains différents séparés par les langues et les époques, et que pourtant tout s'emboîte avec la précision d'une horloge suisse, qu'est-ce que ça suggère sur la nature de l'histoire avec un grand H ? Pour ceux qui s'intéressent au mystère de l'humanité, on est en droit de se demander et si l'histoire n'était pas cette succession tragique et aléatoire d'empires qui se font la guerre sans but, mais un texte épique, rédigé par un auteur suprême qui utiliserait le temps comme encre et les nations comme simples personnages. Il y a assurément là matière à bouleverser bien des certitudes pour de futures réflexions.